journal, Frédéric Mettezo. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous. Il faut juger les djihadistes français pour le génocide des yézidis en Irak. La Fédération internationale des droits de l'homme pointe la responsabilité d'islamistes étrangers, dont des Français, dans les exactions contre cette communauté en Irak. Un rapport que Sarah Guibaudeau a lu en avant-première pour France Inter. Des bombes envoyées à Barack Obama ou Hillary Clinton, les États-Unis vont-ils revivre une campagne de terrorisme d'extrême droite? À 12 jours des élections de mi-mandat, Donald Trump se pose en père de la nation. La guerre, comme si vous y étiez, l'OTAN organise ses plus grandes manœuvres depuis la chute de l'URSS, des avions, des bateaux, des soldats qui s'entraînent en Norvège, à portée de radar de la Russie. L'actualité en France, en ce jour de publication des chiffres du chômage, question sur notre politique industrielle et sur l'indemnisation des intermittents du spectacle. Votre invité à 8h20, Ali Badou. Quelle place pour le PS entre Macron et Mélenchon? Quelle tête de liste pour les socialistes aux élections européennes? Être socialiste aujourd'hui?
On reçoit le premier secrétaire du Parti Socialiste dans le grand entretien de la matinale. Olivier Faure sera avec nous. Le standard est ouvert. Posez-lui vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
La culture créole à l'honneur en métropole. Ouverture de la deuxième édition du Festival Créole. Ça dure presque un mois.
France Inter.
Pendant 3 ans, une partie du Kurdistan irakien a vécu sous le joug de Daesh. 2014-2017, la Fédération internationale des droits de l'homme publie un rapport sur le crime commis là-bas, notamment contre la minorité yézidi. La FIDH estime que des djihadistes français doivent être jugés dans le cadre de ce génocide des yézidis en Irak, car ils ont été directement impliqués dans des massacres. Sarah Guibaudeau, vous avez consulté ce rapport en avant-première pour France Inter.
Août 2014, le groupe État islamique ravage la région de Sinjar et réduit des milliers de yézidis en esclavage. Ils sont vendus sur des marchés ou sur Internet où l'on voit une femme s'échanger contre une paire de baskets. Des enquêteurs de la FIDH ont interrogé des survivantes au Kurdistan irakien qui ont été achetées par des combattants étrangers, dont 5 Français. Salma devait aider aux tâches ménagères, c'est ce que le Français disait à sa femme. Il la violait aussi en secret, c'est ce qu'on peut lire dans son témoignage.
Sa femme ne parlait pas un mot d'arabe. Elle n'arrêtait pas de me demander ce que je faisais là, mais lui me disait de ne rien dire. Elle voulait que je parte. Alors il m'a emmené loin de son foyer, dans une autre maison. Là-bas, il m'a violée 3 fois. Après m'avoir menotté et bâillonné.
Pour Patrick Baudouin, l'avocat de la FIDH, la justice française devrait s'emparer de ces dossiers et enquêter sur certains djihadistes pour crimes contre l'humanité.
Jusqu'à présent, ce sont des dossiers qui ont été traités exclusivement sous l'angle du terrorisme. Or, si l'on reste sur le terrain purement terroriste, les voix des victimes ne sont pas entendues. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir faire la lumière sur ce qui s'est exactement passé. Et on arrive à une justice beaucoup plus approfondie et beaucoup plus exemplaire.
Un travail que ni l'Irak ni le Kurdistan ne peuvent faire, estime la FIDH, alors que le Kurdistan irakien est de nouveau accessible et que certaines femmes pourraient venir témoigner en France.
Sarah Guibaudeau, ce rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme est à retrouver en ligne sur franceinter.fr. En Birmanie, le génocide des Rohingyas continue, déclaration du chef des enquêteurs des Nations Unies. Les tueries contre cette minorité musulmane semblent avoir arrêté, mais les discriminations, les internements ou le contrôle forcé des naissances continuent. Selon l'ONU, 10 000 Rohingyas ont été tués et plus de 700 000 ont fui vers le Bangladesh depuis 1 an et demi.
Et puis c'est rare, Frédéric, aux États-Unis, Donald Trump se pose en rassembleur.
Des engins explosifs ont été envoyés au domicile de l'homme d'affaires George Soros, chez les Clinton, chez les Obama ou encore au studio de CNN à New York. À chaque fois, ils ont été interceptés avant explosion. Des anciens ministres ou des élus démocrates ont également reçu ce genre de colis en cours d'analyse par le FBI. Tous ces destinataires ont un point commun, ce sont des anti-Trump. Mais hier, dans le Wisconsin, le président américain a tenu un discours rassembleur.
The safety of the American people.
La sécurité des Américains est la première de mes priorités, une priorité absolue. Alors que nous parlons, les paquets sont examinés par nos meilleurs experts en explosifs. Et une enquête fédérale majeure est en cours. L'ensemble du gouvernement est entré en action pour conduire cette enquête et présenter les responsables de ces actes méprisables à la justice. Nous n'épargnerons aucun effort, aucune ressource. Et je veux juste vous dire qu'en de tels moments, nous devons nous unir, nous devons être ensemble et envoyer un message clair et puissant pour dire que ces actes, ces menaces, ces violences politiques n'ont aucune place aux États-Unis d'Amérique.
Un Donald Trump consensuel, loin du battleur, souvent vulgaire et insultant. Pourtant, côté démocrate, des dirigeants du parti dénoncent toujours un président qui cautionne la violence physique et divise les Américains avec ses mots et ses actes. Mais à 12 jours des élections de mi-mandat, la campagne a changé, estime Corentin Célin. Il est professeur agrégé d'histoire et spécialiste des États-Unis.
C'était vraiment très étonnant d'entendre, de le voir vraiment avec un ton très calme, très posé, et appeler à l'unité. Lui qui, encore quelques jours, dénonçait, je cite, par exemple, les démocrates comme le parti de la mafia, des gangs. Et aujourd'hui, l'entendre dire qu'il faut se réunir, se réconcilier, effectivement, avec un ton extrêmement posé, c'est vraiment extrêmement étonnant et ça répond à votre question. La campagne a changé. Moi, je serais tenté de vous dire que Donald Trump, à chaque fois qu'il a dû faire face à comme ça une surprise d'octobre et un événement inattendu, il a plutôt été très très bon.
Le spécialiste des États-Unis, Corentin Célin, sur France Info. Après plusieurs jours de réflexion, Emmanuel Macron évoque d'éventuelles sanctions contre l'Arabie Saoudite après le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Comme les dirigeants américains, allemands ou britanniques, le président français a téléphoné au roi Salman hier soir pour exprimer son indignation. Dans l'après-midi, le prince héritier Mohamed Ben Salman a aussi évoqué la mort du journaliste. Il parle d'un incident hideux et totalement injustifiable quand le président turc Erdogan parle, lui, d'un assassinat planifié. Les grandes manœuvres de l'OTAN, les 29 pays membres de l'Alliance, la Suède et la Finlande organisent tous ensemble le plus grand exercice militaire depuis la fin de la guerre froide. Des dizaines de milliers d'hommes, des milliers de véhicules, des centaines d'avions et des dizaines de navires y participent aux portes de la Russie. En Norvège, Pierre Benazet.
Les quelques 50 000 soldats de l'OTAN qui prennent part à ces grandes manœuvres vont s'aguerrir aux conditions climatiques norvégiennes à quelques centaines de kilomètres de la Russie. Jamais l'OTAN n'avait organisé de grandes manœuvres de cette ampleur depuis l'effondrement du bloc soviétique. C'est par exemple la première fois depuis 30 ans qu'un porte-avions américain va se retrouver dans les eaux norvégiennes. Pour le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, ces grandes manœuvres sont aussi un signal. Jens Stoltenberg.
NATO does not seek confrontation.
L'OTAN ne cherche pas la confrontation, mais se tient prête à défendre chaque allié contre toute menace. Ces dernières années, l'environnement sécuritaire de l'Europe s'est détérioré de manière significative et l'OTAN a répondu par la plus grande adaptation de notre défense collective depuis la fin de la guerre froide. Parce que quand le monde change, l'OTAN doit changer. Et c'est exactement ce que nous avons fait avec le haut niveau de préparation de nos forces, l'accroissement de notre présence dans les pays orientaux de l'OTAN et en investissant plus dans notre sécurité et notre défense.
Le scénario de ces grandes manœuvres, baptisé Trident Juncture 18, consiste en un exercice de défense d'un pays allié, un exercice militaire prévu de longue date, mais qui fait évidemment écho aux grandes manœuvres des forces armées russes à la mi-septembre. Pierre Benazet, France Inter. À Bruxelles.
C'est un pays clé dans l'OTAN, mais qui n'hésite pas à faire les yeux doux à Moscou. Le président du Conseil italien est en visite officielle en Russie, alors que la Commission européenne a rejeté son projet de budget pour l'année prochaine. Devant des chefs d'entreprise russes, il promet que les fondamentaux de l'économie italienne sont solides. Il demande que la Russie revienne au plus vite dans le G8, dont elle est exclue à cause de la situation en Ukraine. En retour, Vladimir Poutine a proposé que l'Italie soit directement reliée au gazoduc russe mis en service l'année prochaine. Hier, le gouvernement italien a reçu le soutien de Jean-Luc Mélenchon. Le député insoumis précise qu'il ne soutient pas la politique des démagogues du Cinque Stelle et de la Ligue d'extrême droite, mais qu'il combat la Commission européenne. Jean-Luc Mélenchon.
Pour la première fois, la Commission européenne s'affronte au budget voté par le Parlement d'un État et elle s'affronte alors même que ce budget est dans les clous des traités budgétaires. Ce qui est reproché au gouvernement italien, c'est de ne pas respecter l'engagement du précédent gouvernement italien qui avait été acquis sous la pression de la Commission européenne. Dès lors qu'il ne s'agit plus simplement du respect des traités, mais d'un profil budgétaire, on voit bien que c'est une dépossession de la souveraineté des nations, des États, des peuples, quoi qu'on pense des choix qu'ils ont faits. C'est la raison pour laquelle il faut évidemment prendre parti pour le gouvernement italien contre la Commission européenne. Même si on désapprouve le gouvernement italien, ce qui est notre cas, tout en désapprouvant la Commission européenne.
Jean-Luc Mélenchon, il répondait à Ania Vogel.
Les chiffres du chômage pour le troisième trimestre seront connus ce midi.
En juillet et en août, le nombre d'inscrits à Pôle emploi a augmenté. Il reste donc à savoir si le mois de septembre permettra de renverser la tendance. Tout cela alors que les partenaires sociaux vont négocier une nouvelle convention de l'assurance chômage. Montant des cotisations, durée et conditions d'indemnisation, tout est sur la table. Seule contrainte, l'État demande 4 milliards d'euros d'économies sur 3 ans. Laurent Kramer, le patronat compte bien réformer le régime des intermittents.
Dans cette négociation, il faudra bien ouvrir tous les tiroirs, prévient le patronat, y compris ceux qui grincent le plus. On ne trouvera pas 4 milliards d'euros d'économies sur l'assurance chômage sans renégocier et toucher au régime des intermittents, assume le patronat. Le gouvernement n'a visiblement pas envisagé cette possibilité, mais c'est pourtant la règle de l'assurance chômage. Tout le monde devra participer à l'effort de guerre, conclut un négociateur du patronat. Sujet politiquement sensible, le gouvernement ne semble pas de son côté vouloir remettre en cause le régime des intermittents. Ce n'est pourtant pas aux chômeurs de réduire leurs droits pour financer la politique culturelle de l'État, avance un autre négociateur. Avec 1,5 milliard distribué chaque année pour 80 000 intermittents, le régime tient plus de la subvention déguisée à la charge de l'ensemble des salariés. Devant tant d'efforts demandés, il sera difficile de ne pas ouvrir le dossier, reconnaît un négociateur côté salarié.
La réforme de l'indemnisation du chômage, les chiffres du chômage alors que l'emploi industriel souffre en France. À Blanquefort en Gironde, plus de 300 emplois sont menacés à l'usine Ford, 280 à l'acierie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord. Hier, la justice a accordé un délai de 2 semaines aux candidats à la reprise pour qu'il puisse boucler son financement. Mais au-delà du cas emblématique de cette usine propriété du groupe Vallourec où l'État est actionnaire, quelle stratégie industrielle en France? Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, pose la question.
Est-ce qu'il y a encore une stratégie industrielle en France? L'État est actionnaire de Vallourec à hauteur de 17%. C'est le premier actionnaire. La filière industrielle de l'acier, mais bon sang, elle vaut la peine dans ce pays. Ou alors on va nous dire qu'il n'y a que les start-up, il n'y a que les nouvelles technologies qui sont importantes. Si l'État veut, l'État peut. Et je lui dis au président de la République, vous nous dites que vous croyez à l'industrie. Faites-en la preuve.
Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France sur France 3 Nord-Pas-de-Calais hier soir. Les débats sur le budget de la sécurité sociale. Hier soir, l'Assemblée nationale a voté l'exonération des cotisations salariales sur les heures supplémentaires. Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019. C'est un manifeste signé par plus de 55 000 personnes en France. Une pétition pour l'accueil des migrants et après les signatures, une soirée débat ce soir au 104 à Paris. En Méditerranée, les ONG sont à la peine depuis que l'Aquarius a perdu son pavillon. Mais faute de bateaux, il reste les avions. L'association Pilotes Volontaires, créée par un pilote de ligne, organise des survols de la Méditerranée pour repérer les embarcations et les signaler aux autorités. Ils ont déjà repéré 42 bateaux et permis de sauver 4000 personnes. Margot Delpierre, vous avez rencontré l'un de ces pilotes.
Benoît Micolon, 6000 heures de vol au compteur, n'avait jamais pensé faire de l'humanitaire. C'est un ami qui lui a proposé ce projet fou. Aujourd'hui, il passe tous ses week-ends et ses vacances à survoler la Méditerranée.
On n'imagine pas en fait, tant qu'on n'a pas été sur place, moi je peux vous dire que quand je suis dans l'avion, que je vois une embarcation, au début c'est un petit point blanc parce qu'on voit le sillage du bateau, si le moteur fonctionne encore, et puis on se rapproche, on se rend compte que tiens, c'est plus un petit point blanc, c'est une embarcation. Dedans, il y a quelque chose, ah bah c'est des gens, ils nous font signe, ils nous ont vus. Il y a un contact humain qui se crée, ça donne une autre dimension. C'est choquant.
À bord du Colibri, petit avion de tourisme, le pilote vole 8 heures par jour à basse altitude, seul depuis que le dernier navire humanitaire, l'Aquarius, a perdu son pavillon. Il a affaire aux autorités libyennes à qui il signale des embarcations en détresse, mais selon Benoît, elles ne sont pas toujours réactives.
Les secours ne répondent pas. On est livré à nous-mêmes, on doit trouver des solutions. On va survoler la mer, trouver des bateaux qu'on estime capables de procéder au secours, et on va les guider nous-mêmes. On n'a pas encore eu le cas où on a repéré une embarcation qui n'a pas été secourue et où les gens ont disparu. Malheureusement, ça pourra arriver un jour.
Les deux fondateurs de l'association ont acheté l'avion avec leurs économies. Pour continuer, ils ont besoin de dons. Chaque mission coûte entre 1 000 et 1 500 euros par jour. La prochaine devrait avoir lieu mi-novembre.
La Ligue des champions de football, hier soir, le PSG a concédé le nul face à Naples, 2-2. Monaco a obtenu un bon match nul, 1-1 à Bruges. C'était le premier match européen de l'entraîneur Thierry Henry. Dans le groupe du PSG, Liverpool a battu les l'Étoile Rouge de Belgrade 4-0. Et puis l'Atlético de Madrid, le club d'Antoine Griezmann, a été écrasé 4-0 à Dortmund quand Barcelone, sans Lionel Messi, blessé, a battu l'Inter de Milan 2-0.
Et puis Frédéric, un mois pour fêter la langue créole en France métropolitaine.
Des concerts, des spectacles, des lectures publiques ou des tables rondes pour la deuxième édition du festival créole partout dans le pays, à Paris et dans sa banlieue, à Alençon, à Strasbourg, pour découvrir toute la richesse de la culture créole, Stéphane Capron.
Les cultures créoles sont bien vivantes, c'est une source d'inspiration inépuisable pour des artistes qui ont souvent bien du mal à exister sur les scènes françaises, très peu programmées dans les institutions. Chantal Loyal dirige la compagnie de danse d'Ife Kako et elle coordonne ce festival qui fait sortir de l'ombre les artistes créoles.
Tous nos artistes manquent de visibilité, manquent de plateau. Du coup, c'est comment faire progresser ce travail, mais comment aussi les politiques peuvent nous accompagner. Et moi, je dis souvent aux politiques, c'est pas ceux qui sont forcément tout en haut, c'est aussi ceux qui sont sur le territoire.
Le grand écrivain martiniquais Aimé Césaire ne pouvait être absent de ce festival. Marianne Mathéo s'y présente son texte le plus emblématique, Discours sur le colonialisme.
Césaire est vraiment, j'ai envie de dire, la pierre angulaire de cette culture. Que ce soit dans sa poésie ou dans son théâtre, on se rend bien compte que cette partie du monde, c'est un creuset de rencontres, dans la violence, certes, on le sait, mais aussi de richesses venant du monde entier.
Publié en 1950, ce discours d'Aimé Césaire est toujours d'actualité, un cri libérateur pour tous ceux qui ont vécu la colonisation dans un festival qui sait faire la fête et aussi porter un discours engagé.
Voilà, et pour mieux découvrir ou redécouvrir le discours sur le colonialisme d'après Aimé Césaire, ce sera à Arcueil ce soir, puis à Paris, dans le cadre de ce festival créole.
Merci Frédéric.